France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mercredi 10 avril. Bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un cinquième mandat en vue pour Benjamin Netanyahou, qui apparaît le mieux placé ce matin pour former le prochain gouvernement de coalition en Israël. Nous sommes en direct de Tel Aviv dès le début de ce journal, après les autres titres, Agnès.
Édouard Philippe chahuté hier à l'Assemblée lors de la restitution du grand débat et des parlementaires qui dégainent pour la première fois le référendum d'initiative populaire contre la privatisation des aéroports parisiens. Des écrans de pub connectés dans les couloirs du métro. Les parents qui ont eu recours à un don de gamètes distillent la vérité à leur enfant. Une première étude est lancée en France. Et puis le héros, aussi attachant qu'horripilant, d'Étienne Chatillez, est donc de retour sur les écrans et chez ses parents.
Le 7-9 ce matin, 7h15, secret d'info avec de nouvelles révélations sur l'évasion fiscale internationale. C'est une enquête France Inter et L'Obs, 7h50. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Votre invité.
L'année dernière, elle a obtenu l'équivalent du Nobel pour l'écologie, le prix Goldman pour l'environnement. C'est Claire Nouvian, cofondatrice du mouvement Place Publique, désormais candidate sur une liste de rassemblement avec le PS. Militante, écologiste, radicale, voire rugueuse, son regard sur l'entrée en campagne et sur la sortie du grand débat, c'est à 7h50.
A tout à l'heure Alexandra. 8h20, le feuilleton du Brexit, nouveaux épisodes de la nouvelle saison aujourd'hui. La victoire donc de Benjamin Netanyahou aux législatives en Israël. L'Algérie encore en lutte sur tous ces sujets. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, il est l'invité du grand entretien. Intervenez 01 45 24 7000.
France Inter.
Benjamin Netanyahou est donc en passe de réussir son pari, décrocher un cinquième mandat et battre ainsi le record de longévité à la tête du pouvoir de David Ben-Gourion, le père de l'État hébreu. Son parti, le Likoud, est au coude à coude avec le parti de centre-droit de Benny Gantz, l'Alliance Bleu-Blanc. 35 sièges chacun après dépouillement de 96% des suffrages. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter en Israël. Les deux parties sont donc au coude à coude. Mais c'est grâce aux alliances possibles que Benjamin Netanyahou devrait donc rester au pouvoir.
Et oui, s'il y avait quelques incertitudes encore hier soir, ce n'était pas tant sur la victoire de Bibi, mais plutôt sur l'importance qu'elle revêtrait. Les supporters de Benjamin Netanyahou étaient sûrs à 100% qu'il serait réélu. Et l'arithmétique des alliances est telle, en effet, qu'il est en position de force aujourd'hui pour former une nouvelle coalition. Devant ses militants, Bibi a d'ailleurs assuré tard dans la nuit qu'il avait reçu le soutien de tous les partis de droite dont il avait besoin pour former son gouvernement. C'est donc une nouvelle victoire pour cet animal politique aguerri au pouvoir depuis 10 ans qui a revendiqué tout au long de la campagne son bilan en matière de sécurité, en matière économique aussi, quitte à passer sous silence certaines réalités sociales qui touchent les plus pauvres. Mais il plane toujours sur lui la menace d'une inculpation pour corruption dans 3 dossiers différents. Sa mise en examen, si elle était prononcée, pourrait prendre plusieurs mois et entre-temps, il n'est pas obligé de démissionner tant que tous les recours n'auront pas été épuisés. Il a donc largement le temps de préparer sa défense.
Merci Valérie Crova, en direct de Tel Aviv ce matin pour France Inter avec Hélène Longoy pour les moyens techniques. Un délai, oui, mais quel délai? Theresa May est à Bruxelles aujourd'hui pour demander officiellement un report du Brexit au 30 juin prochain. La chef du gouvernement britannique est passée hier par Berlin et Paris pour plaider sa cause. Et les Européens sont visiblement d'accord pour lui accorder un délai supplémentaire, certains proposant même un délai jusqu'à début 2020. La peine de mort recule dans le monde. 690 exécutions capitales l'an dernier, un chiffre au plus bas depuis 10 ans selon une étude d'Amnesty International. Seul bémol, les chiffres pour la Chine ne sont pas comptabilisés car classés secret d'État.
Il est 7h04, la restitution du grand débat suite, Agnès, après le Grand Palais et avant le Sénat, l'Assemblée.
4 heures de discussion houleuse hier et un Premier ministre en première ligne, Karine Bécart, pour tenter de répondre aux critiques nombreuses des députés de tous bords.
Pour l'instant, personne ne sait quand s'exprimera Emmanuel Macron, pas même le Premier ministre visiblement, qui a donc accepté de prendre les coups en attendant. Marine Le Pen, la présidente du RN.
Vous êtes venue devant la représentation nationale pour une restitution des orientations du grand débat en nous disant strictement rien. Mais rien.
Pas la moindre annonce, effectivement, et la volonté même de poursuivre les réformes en allant plus loin, ce qui a fait hurler la France insoumise, et en particulier François Ruffin.
Débouchez-vous les oreilles, monsieur le Premier ministre. Faites péter le cérumen. Enlevez vos boules de caisse. Sinon, le peuple Le peuple pourrait bien crier encore plus fort et vous servir de tourino.
Alors, solution moins révolutionnaire à droite pour Christian Jacob, qui réclame depuis le début une issue politique.
Ça n'est plus réellement d'un débat dont le pays aurait en réalité besoin, mais ce serait d'une nouvelle élection. Parce qu'en démocratie, l'élection est le seul juge de paix pour s'assurer de la légitimité d'un gouvernement.
Pendant 4 heures dans l'hémicycle, Édouard Philippe a donc accepté d'occuper le terrain.
C'est au président de la République qu'il reviendra de faire ses annonces. Et ça ne me posera aucun problème. Au contraire, je suis
reste un dernier débat aujourd'hui au Sénat pour gagner, avant l'intervention d'Emmanuel Macron, encore un peu de temps.
Des parlementaires, 218, tous bords confondus, qui ont engagé hier le processus pour un référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'aéroports de Paris. En attendant, les députés s'apprêtent à voter demain la loi Pacte qui prévoit justement la privatisation d'ADP. Et puis Airbus change de pilote. Guillaume Ferry prend aujourd'hui officiellement les commandes du consortium aéronautique européen en lieu et place de Tom Enders. Et l'on reparle ce matin du volet passeport de l'affaire Benalla. Alexandre Benalla est poursuivi pour usage abusif et les juges vont entendre aujourd'hui les 3 personnages clés de l'Élysée pour tenter de comprendre, Corinne Audouin, comment l'ex-chargé de mission a-t-il pu utiliser ses passeports aussi longtemps.
Les explications d'Alexandre Benalla sur l'usage de ses divers passeports ont beaucoup varié. En septembre, entendu par la commission d'enquête du Sénat, il explique que ses passeports diplomatiques sont restés dans son bureau à l'Élysée après son licenciement en juillet. 2 mois plus tard, la lettre du Continent et Le Monde révèle qu'il les aurait utilisés, notamment pour aller au Tchad en décembre, juste avant une visite d'Emmanuel Macron. Réentendu par le Sénat en janvier dernier, Alexandre Benalla dit cette fois qu'un salarié de l'Élysée lui a rendu ses passeports en octobre. Faux, les passeports n'étaient pas à l'Élysée. D'ailleurs, ils ont servi dès le mois d'août, explique alors au sénateur le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda.
Nous savons aujourd'hui que M. Benalla a utilisé presque une 20aine de fois ses passeports entre le 1er août et le 31 décembre.
Patrick Stroda soupçonne également Alexandre Benalla d'avoir fabriqué une fausse note à l'entête du chef de cabinet du président pour obtenir en juin 2018 un passeport de service. François-Xavier Loche, dont l'identité aurait ainsi été usurpée, a d'ailleurs porté plainte contre Alexandre Benalla. Ce sont ces points que les juges vont tenter d'élucider en interrogeant les 3 collaborateurs du président.
Pas de journaux dans les kiosques ce matin. Les salariés du groupe de distribution Prestalis sont en grève pour protester contre la réforme de la distribution qui doit être présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Réforme qui prévoit l'ouverture à la concurrence à partir de 2023 et une plus grande marge de manœuvre pour les marchands de journaux. Et si dans le métro, vous n'avez pas le nez dans votre journal justement, vous pouvez jeter un regard sur l'un des 60 000 panneaux publicitaires présents dans les couloirs. Un secteur en pleine mutation. La RATP connaîtra aujourd'hui les candidats à la reprise de ce marché juteux, 1,5 milliard d'euros sur 10 ans. Et à l'avenir, fini ou presque les affiches papier, place aux panneaux publicitaires numériques connectés, une technologie qui pose question, Thibault Lefèvre.
Toutes les 10 secondes, une nouvelle annonce sur un écran lumineux de 2 mètres carrés.
C'est insupportable.
Leïla passe tous les jours par les couloirs de la station République, c'est au cœur de Paris.
Votre regard ne se repose jamais et ces images qui bougent tout le temps, je trouve ça insupportable.
Car les publicités attirent le regard, mais ce n'est pas tout. Elles s'adaptent aux habitudes des passagers. Philippe Baudillon est le président du fabricant américain de panneaux numériques, Clear Channel.
On sait parfaitement que à l'heure du déjeuner, il y a un certain profil de personnes qui circulent. Donc en fait, ça nous permet d'adapter les messages en fonction du profil type des gens qui passent devant nos dispositifs.
Les publicités sur écran numérique se vendent 6 à 10 fois plus cher que les annonces sur affiche papier. Et pour mieux vendre, il faut chiffrer le plus précisément possible l'audience. Thomas Bourgenot est chargé de plaidoyer pour l'association Résistance à l'agression publicitaire.
La RATP a fait une expérimentation à Saint-Lazare en ce moment sur des capteurs de téléphones portables. Ils vont récupérer l'adresse MAC des téléphones. Donc pour savoir combien de gens sont passés, quand on est usager, usagère du métro, est-ce qu'on est enclin à participer à des études grandeur nature alors qu'on est captif de ces études auxquelles on ne peut pas vraiment donner notre consentement?
Les adresses MAC, contrairement aux adresses IP, permettent de compter les appareils sans nécessairement identifier leurs propriétaires.
Reportage signé Thibault Lefèvre.
Il est 7h10, une première étude en France sur le comportement des parents, Agnès ayant eu recours à un don de gamètes.
Avez-vous dit la vérité à votre enfant? C'est la question que posent les hôpitaux de Marseille aux parents ayant eu recours à cette technique dans les 45 dernières années pour tenter de comprendre pourquoi certains parlent et d'autres pas et comment les enfants réagissent. Une enquête, Véronique Julia, qui permettra aussi de mieux accompagner les familles.
Pour les parents ou les enfants qui veulent participer à l'étude, il suffit d'aller sur le site internet de l'APHM, Assistance publique hôpitaux de Marseille. Ils trouveront là deux questionnaires, l'un pour les parents qui ont eu recours au don de gamètes en France ou à l'étranger, qu'ils soient en couple, célibataire, hétéro ou homosexuel. L'autre pour les enfants, ceux qui savent à quel âge l'avez-vous appris, dans quelles circonstances. Parents comme enfants sont également invités s'ils le souhaitent à participer à un entretien pour en dire davantage. Car on sait finalement peu de choses sur le vécu de ces familles. À l'origine du projet, le professeur Catherine Metzler-Guimin est chargée du service de biologie de la reproduction aux hôpitaux de Marseille.
On voit surtout les couples avant qu'ils deviennent parents. Donc si vous voulez, on travaille un peu la question de l'information à l'enfant. Il y en a qui arrivent très bien à se projeter. Pour d'autres, c'est quand même assez compliqué. Alors il y a une souffrance, c'est sûr.
Vous conseillez donc, toujours de le dire à l'enfant ?
Toujours. Ça fait longtemps que les professionnels conseillent la transparence. En revanche, les gens sont quand même plus à l'aise maintenant qu'il y a 15 ans.
Aujourd'hui, les choses se disent plus facilement peut-être, mais d'autres études faites à l'étranger il y a quelques années montraient que la vérité de leur naissance restait cachée aux enfants dans plus de 50% des cas. En France, plus de 60 000 enfants sont nés d'un don de sperme depuis 1973 dans les centres spécialisés, les SECOS. À ce jour, la loi n'évoque pas cette question de l'information aux enfants conçus par don.
Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, grosse déception pour Manchester City, battu par Tottenham 1-0 et dans l'autre rencontre, Liverpool a battu Porto 2-0.
Tanguy, le retour.
Et il n'a pas changé, ce garçon accroché au basque de ses parents, incapable de se prendre en charge, héros du film d'Étienne Chatillez il y a 16 ans, gros succès, 4,5 millions de spectateurs, et le revoilà donc chez ses parents, surfant sur un réel phénomène de société. La formule Corinne Pellissier n'a pas changé d'un iota.
Pour Sabine Azéma et André Dussolier, la tranquillité n'aura duré que quelques années. Fini le coach sportif à la maison, les BD savourés tous les matins au fond du lit. Tanguy est de retour et Tanguy va mal.
Tanguy ?
Sa femme chinoise vient de le plaquer et le voilà qui revient sonner un soir à la porte de ses parents, encombré de bagages et accompagné d'une adolescente. Car après 16 ans d'une vie plus ou moins autonome en Asie, Tanguy est devenu papa. Deux générations sous le même toit pour le prix d'une et l'impression très vite que Paul et Edith vont replonger en enfer, exactement comme dans le premier volet.
C'est qu'il va mieux.
Exactement, il va mieux. Beaucoup mieux que ce qu'il prétend.
La formule est sympathique, les personnages attachants, mais l'ensemble manque un peu d'originalité. Le même casting, la même recette, les mêmes ressorts comiques et toujours ce chewing-gum collé au pied des parents qui avait rapporté au film deux Césars au moment de sa sortie en 2002.
T'as raison, Edith. On est en train de se faire enfler.
L'expression aujourd'hui « faire son Tanguy » est passée de mode, mais le propos du film est toujours pertinent. C'est l'Institut National d'Études Démographiques qui le dit. Entre le coût des loyers, les accidents de la vie, de plus en plus de quinquas retournent vivre chez leurs parents, exactement comme Tanguy.
Le cauchemar. Tanguy, le retour sur les écrans.
Merci Agnès Soubirant.